Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec du son et du sens, l'actualité à chaud mais aussi à froid.
En direct du studio 511, une émission réalisée au scalpel par Céline Hila, assistée de June Loper avec Valentin Azan-Zielinski à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, Comme un bruit qui court prend la température. À chaud, occupation nocturne du lycée Voltaire à Paris, et à froid, homicide conjugal quand l'amour finit en salle d'autopsie.
C'est la perte de maîtrise qui va entraîner la détresse. Et on est aussi face à des individus qui ont du mal à gérer leurs émotions. Tout était intériorisé jusqu'au passage à l'acte ultime.
On sent nos élèves méprisés, on se sent méprisés. Et on voit bien qu'avec la réforme qui s'annonce, ça ne va pas s'arranger pour eux. Pour nous non plus d'ailleurs. Mais il y a là quelque chose qui devient insupportable dans le mépris en plus.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court et qui fait cette semaine le grand écart entre deux sujets qui n'ont a priori rien à voir. De la salle d'autopsie d'un médecin légiste qui dissèque les corps des femmes victimes de violences conjugales, à la salle d'épreuve d'un lycée occupé à Paris, pas de lien apparent. Sauf peut-être que dans les deux cas, c'est le sentiment de mépris qui les a amenés là. Perçue comme inférieure ou sans intérêt, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint. Perçue comme inférieure ou sans intérêt par les classes dirigeantes, c'est aussi le sentiment de mépris qui amène en ce moment bon nombre d'ouvriers, d'étudiants et de lycéens dans la rue. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, le réalisateur du film éponyme, Jean-Luc Godard, déclarait en plein festival de Cannes, et non sans opposition, la solidarité du cinéma avec les luttes en cours à l'époque.
Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Oui, mais... Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans.
Vous êtes en Europe.
Il y a 50 ans, le Festival de Cannes se clôturait de manière anticipée. Nous n'en sommes pas là, certes, mais le mouvement social se propage aujourd'hui au lycée. Premier concerné par la réforme de l'université, et cette semaine, c'était le lycée Voltaire qui était occupé, Antoine.
Une occupation nocturne et symbolique, mais occupation tout de même par des enseignants et parents d'élèves préoccupés par les réformes du lycée, du bac et de l'accès à l'université Parcoursup.
Mais avant d'aller prendre la température du mouvement social dans la salle des profs, c'est en salle d'autopsie que tu nous emmènes, Give.
Oui, chez la docteure Alexia Delbreil, qui est à la fois psychiatre et médecin légiste. D'un côté, elles sont les âmes des bourreaux et de l'autre, les corps de leurs victimes. Et nous sommes allés la retrouver au CHU de Poitiers pour se faire expliquer son sujet de recherche inédit. Les homicides conjugaux ou quand l'amour finit en salle d'autopsie. Alors vous allez me dire que c'est une histoire vieille comme la tragédie, que plus une série télé ne fait l'impasse sur cette scène d'autopsie bien glauque avec cette fascination morbide. Mais c'est un phénomène social de basse intensité qui compte pour 15 à 20% des meurtres en France. 140 l'année dernière. Elle l'a disséqué pour comprendre ce qui se passe quand l'intime tue. Avec une conclusion provisoire, le crime passionnel n'est pas une fatalité.
Alors jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, prend la température des lycées qui chauffent aux corps qui se refroidissent.
Le corps présente une double lividité, le sang s'est stabilisé deux fois.
On l'a tué autre part avant de le déposer ici.
Bonne conclusion.
Alain Latour comparaît pour avoir fait feu sur son ex-compagne Isabelle Parnex en août 2012.
Anne Caudal, jeune floriste, avait été tuée par son compagnon Christophe Piedou.
Là, regardez, vous voyez ? Sur la peau, ces traces de couleur.
Ah oui ? C'est quoi ?
Justement, aucune idée. J'attends la réponse de la Napate.
Le 30 janvier, Jonathan Daval reconnaît, après 3 mois de dissimulation, avoir tué sa femme Alexia.
Il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon.
C'est vraisemblablement un problème conjugal qui est à l'origine du triple meurtre.
J'ai tué par amour, parce que j'aimais trop.
Il y a eu 184 cas de ce type, 157 femmes et 27 hommes qui sont morts sous les coups de leur mari, femme, compagne, compagnon.
Tenez, regardez. Vous voyez ces particules là ? C'est du pollen qui est passé dans la plaie. Approchez.
Comme un bruit qui court.
Le plus gros problème, c'est l'expression « drame conjugal ».
Guy Vonctil.
C'est ce qui revient quasiment systématiquement.
Charlotte Perry.
Dans un drame, il n'y a que des victimes, il n'y a pas de coupable.
Antoine Chaot.
Hashtag comme un bruit.
On est voilà dans les sous-sols du centre hospitalier universitaire de Poitiers. espèce de grand paquebot à la sortie de la ville.
Là, c'est le côté où on fait les consultations de victimes. Donc,
c'est les patients vivants.
Voilà, c'est les patients vivants. Et après, c'est donc, tout au bout.
Salle d'autopsie 1. Occupée. Zone contrôlée. Accès réglementé.
Et puis nous, on va aller s'habiller à côté dans les vestiaires.
Je suis. Chaussures, masque, charlotte, tablier. Dès que je m'approche de la porte, elle s'ouvre toute seule. Alors, nous voilà dans... Ça s'appelle comment cette salle ? C'est une salle d'autopsie ?
Une salle d'autopsie.
De l'Institut médico-légal. Ça ressemble à un bloc opératoire, sauf qu'il n'y a pas l'électrocardiogramme qui fait bip-bip, puisqu'il n'y a pas de vie. Alors, docteur Alexia Delbreil, vous êtes à la fois psychiatre et à la fois médecin légiste. C'est deux disciplines qui, a priori, ne devraient avoir pas grand-chose à voir, puisque l'un soigne les âmes et l'autre dissèque les corps.
Oui, et puis surtout que les cadavres ne parlent pas beaucoup.
Si vous voulez résumer un peu la mission du médecin légiste.
En fait, on travaille au quotidien pour la justice, en fait. On est salarié des hôpitaux, médecins, mais on ne répond qu'à des missions judiciaires. On aide à apporter des preuves pour le fonctionnement judiciaire. C'est notre quotidien.
Donc ce matin, c'est un corps qui est arrivé.
Oui, c'est ça, sur le brancard, il y a le corps qu'on va examiner.
Ah d'accord, oui. Ça, c'est ce que je vois là, c'est un brancard recouvert d'un drap.
On est juste à côté.
Je n'avais pas compris. Très bien, bon, ben, je vous laisse travailler. Je suis... C'est assez impressionnant de voir, c'est des sacs à viande, quoi, des espèces d'emballages avec une fermeture éclair en plastique blanc. On a soulevé le drap. Mais pour l'instant, c'est encore une silhouette indéterminée. Qu'est-ce que vous savez là sur le corps qui est là ?
On a les commémoratifs donnés par les enquêteurs, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent comment le corps a été découvert, par qui, à quelle date, qu'est-ce qu'ils connaissent de ses antécédents, est-ce que c'était une personne qui avait des problèmes psychiatriques, parfois ils n'ont pas d'informations là-dessus, ça dépend si on a de la famille ou pas. Et
alors là, la mission, là, c'est de déterminer la cause de la mort, c'est ça ?
Oui, c'est ça, cause et circonstances du décès.
Alors, docteur Delbreil, je venais vous voir aussi parce que vous êtes une des premières à avoir travaillé sur les archives et sur ce type de crime bien particulier qui est le meurtre de conjoint.
Oui, c'est entre 15 et 20% de la totalité des homicides sur le territoire français.
Ah, c'est beaucoup ?
Oui, oui, oui. On est aux alentours de 140 victimes par an, ouais. À peu près. Parmi ces homicides, on a 80% de femmes victimes et 20% d'hommes.
Ah oui, aussi, oui.
Oui. Donc, j'ai demandé une autorisation à la justice de pouvoir consulter l'intégralité, en fait, de leur dossier judiciaire après que l'auteur ait été jugé. Donc, après la publicité des débats, en fait. Ce qui était intéressant dans ces dossiers judiciaires, c'était aussi les interrogatoires de la famille, les interrogatoires de l'entourage amical, professionnel. Tout ça apporte des informations extrêmement importantes sur le mode de vie et la dynamique d'un couple.
Jonathan Daval est incarcéré depuis 2 mois après avoir reconnu avoir tué son épouse Alexia lors d'une dispute.
Un homme âgé d'une 50aine d'années s'est rendu au commissariat en s'accusant d'avoir poignardé mortellement son épouse.
Non seulement ce sont des criminels comme les autres, mais je dirais qu'ils nous ressemblent. Parce qu'on est tous dépositaires de la violence. Et moi je pars du principe que n'importe qui peut passer à l'acte.
L'affaire Marie Trintignant, le rapport d'autopsie dévoilé aujourd'hui, renforce la thèse des coups mortels portés par Bertrand Cantat.
Il faut savoir ce qu'on entend par crime passionnel. Les gens confondent en général la passion et l'amour.
Ah, j'avais pas vu là, c'est vraiment une boîte à outils, quoi.
boîte d'instruments, pas d'outils.
C'est une espèce de petit marteau, des pinces.
Dans toute la caisse, il y en a plein. Mais là, c'est le couteau, ouais, avec l'énorme lame. Et ça, c'est plutôt pour couper quand on a les organes à plat. D'autres lames de bistouri. Les écouvillons pour faire tous les prélèvements.
Cryotube, eau distillée, aiguille rosée bleue, mesurette, écouvillon rouge. Et c'est vrai que voilà, c'est marrant de voir un bloc opératoire sans antalgique, sans médicaments pour soigner.
Enfin, sans anesthésiant, effectivement. Ouais.
Et la petite balance à côté.
Voilà, c'est pour tous les organes qu'on pèse. Là où c'est scellé.
Alors là, vous ouvrez les coupez les scellés. C'est impressionnant parce qu'on voit que toute la fermeture claire du plastique dans lequel le monsieur est enveloppé, c'est teinté de rouge. C'est du rouge sang, c'est ça?
Oui, oui. C'est pour ça qu'il y a deux housses, pour pas qu'il y ait de fuite.
Et on voit un monsieur très âgé qui baigne dans son sang, dans un sac. Il a le teint jaune, torse nu, et le docteur est en train de le prendre en photo.
Ça donne les consignes si ça va pas
encore, mais je peux donner les consignes.
Bah dites toujours, oui.
Si ça va pas, qu'on a la tête qui tourne, on s'assoit contre le mur et on dit que ça va pas. Et on vous aide à sortir. Voilà, tomber d'un peu moins haut.
C'est gentil.
Tu peux noter que ce monsieur a les cheveux blancs grisonnants, avec une calvitie partielle, une moustache, une corpulence forte, une rigidité sans présente, et on n'a pas de putréfaction. Donc en fait, on a un orifice d'entrée. La munition est rentrée par ici, puisqu'on voit des dépôts de poudre. Et à traverser en fait la partie latérale gauche du visage.
On emporte un bout de l'oreille. Et à côté, il y a une petite feuille avec des étiquettes, avec la date de naissance. Et puis sur chacune, il y a écrit une partie du corps. Rate, ongles, cheveux sans bulbe, rein, foie, poumon, cœur, sang périphérique, contenu gastrique. Sang cardiaque, sang fémoral, urine, humeur vitrée. C'est voilà, c'est le monsieur en pièces détachées. Donc on a un corps sous les yeux justement. Quelles traces et où vous trouvez des traces symptomatiques sur les cas des homicides conjugaux?
En fait, il n'y a pas de trace particulière que c'est un homicide conjugal. Sauf que souvent, il y a plusieurs coups qui ont été donnés. Ce sont souvent des corps qui sont assez abîmés.
Et ce que vous releviez, c'est que c'est souvent des armes du crime d'opportunité.
D'opportunité,
quoi.
Oui. C'est souvent des objets du quotidien, en fait, hein, qui sont utilisés. Comme ce sont des crimes qui, la plupart du temps, ne sont pas prémédités, c'est au moment où ça va se produire que l'auteur se munit de quelque chose. Ça peut être les couteaux de cuisine qu'on trouve dans toutes les maisons, ou on voit dans les strangulations des liens de robe de chambre, par exemple, des fils électriques, des fils de lampe de chevet.
N'importe quoi, voilà. Tout ferait l'affaire.
Vraiment des choses qu'on retrouve dans notre quotidien. Ça, c'est une des particularités, oui, de l'homicide conjugal.
Et l'autre que vous releviez aussi, avec l'étude de tous ces cas que vous avez fait, c'est le phénomène de overkill.
Oui, c'est ce phénomène d'acharnement. Plus de la
c'est
moitié.
C'est intraduisible en français, ça, c'est du sur-homicide, ou je ne sais pas comment dire ça.
C'est-à-dire qu'ils ont donné plus de coups que ce qui est nécessaire pour amener à la mort de la victime. Une victime décédée et un auteur qui continue à s'acharner sur le corps en donnant plusieurs coups de couteau, sans vraiment se rendre compte que la victime est déjà morte. Il y a une forte décharge émotionnelle, en fait. Il y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu à ce moment-là.
Et là, c'est le psy aussi bien que le légiste qui peut dire ça.
Oui. Et c'est ça qui va faire que, en fait, on a une tension interne qui est tellement importante. Toutes ces émotions hein, qui peuvent être de la colère, une peur de l'abandon, des sentiments de solitude, de la vengeance. Voilà, à peu près tout se mélange. Et ça, ça va faire qu'au moment du passage à l'acte, ils sont complètement obnubilés. C'est un peu comme si il fallait qu'il y en ait un des deux qui disparaisse pour que cette tension et cette colère puissent redescendre, en fait. Et c'est probablement ce qui explique le fait qu'on ait plus de coups et un peu plus d'acharnement dans les homicides conjugaux, alors que dans des homicides comme des règlements de compte, on va souvent avoir un coup. La personne tombe, on ne sait pas trop si elle est décédée ou pas, et puis en général, l'auteur s'arrête là, prend la fuite, etc. Donc il n'y a pas le même enjeu, en fait, ouais, que dans l'homicide conjugal.
Parce qu'il y a cette intimité, et il y a la peur de perdre l'autre.
Oui, la peur de perdre l'autre, et très souvent, cette colère qui va avec, parce que l'autre aurait pris une décision qui va à l'encontre de ce qu'on souhaitait, ou de la manière dont on imaginait la relation. Il y a aussi une perte de maîtrise, et cette perte de maîtrise, elle est insupportable pour les auteurs.
Parce que vous dites, oui, c'est ça. C'est souvent les hommes, et souvent des hommes qui objectivent, qui chosifient leur conjointe, qui en font une propriété.
Qui en font une propriété, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette différence. On n'est pas face à deux sujets distincts. Pour l'auteur, on est dans une espèce de fusion où l'autre est à soi, l'autre est soi. Finalement, il vit un peu aussi à travers l'autre et à travers la relation. Et si l'autre disparaît, c'est un peu comme si une béquille disparaît.
C'est ça, c'est pour combler cette détresse ou de la violence.
Il faut que l'autre reste à tout prix. Et c'est la perte de maîtrise qui va entraîner la détresse. Et on est aussi face à des individus qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui s'expriment peu sur eux-mêmes, qui ont du mal à parler d'eux. Et tout était intériorisé jusqu'au passage à l'acte ultime.
Ça fait vraiment la cocotte minute.
Qui est la décharge émotionnelle.
Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle.
Delbrey est en train de procéder à une incision avec un scalpel en partant du menton jusqu'en dessous du nombril, et c'est très impressionnant comme ça se coupe comme dans du beurre sous la peau, la graisse jaune comme du beurre.
On analyse d'abord la partie sous-cutanée, donc pour ça on soulève la peau, ensuite la partie sous-musculaire, donc là je soulève les muscles et voilà, on voit les côtes qui apparaissent. Ça permet de voir sous chaque tissu s'il y a des lésions comme des hématomes ou des ecchymoses ou des fractures. Ça va toujours ?
Ouais, oui, oui, ça va.
Ouais ?
Ouais. Là, vous êtes vraiment en train de faire un écorché, quoi, après ?
Oui.
C'est comme le tableau de Rembrandt, c'est ça ? La leçon d'anatomie ? On fait une petite incision. Maintenant, c'est quoi ?
On sectionne les côtes pour pouvoir avoir accès aux organes thoraciques, cœur et poumons.
Avec une espèce de sécateur.
Qui s'appelle un costotome.
Un quoi ?
Un costotome.
Un costotome. C'est plus propre comme le sécateur. Et Je me trompe ou jusqu'à la Renaissance, là, ce que vous êtes en train de faire, c'était interdit par l'Église catholique en Europe?
Oui, ça a été interdit à une époque. Les médecins qui voulaient approfondir leur connaissance en anatomie le faisaient de manière clandestine.
C'est toujours en récupérant les corps des condamnés.
Oui.
D'où le fameux tableau de Rembrandt dont on parlait, avec ce clair-obscur sur cette... Ah, là, vous soulevez la cage thoracique qui a été découpée.
Du gras.
On aspire tous les fluides corporels
qui nous empêchent de voir les organes.
Là, on prend des bassines en inox parce qu'on est en train d'ouvrir...
Le péritoine.
C'est-à-dire, là, on voit, ça y est, les viscères qui ressortent. Le corps qui est maintenant sur la table d'opération, puisqu'il est recouvert par des tissus sur son visage et sur le bas du corps, puisqu'on veut là vraiment que le torse, complètement ouvert, complètement mis à plat, ça n'a presque plus quelque chose d'humain, quoi. Ce sont des organes qui sont là et on voit la médecin légiste Alexia Delbreil, l'infirmière qui est à côté qui l'assiste et une jeune interne de médecine qui se prépare à faire le même métier, qui sont en train de soulever tel organe, d'apprendre des photos en gros plan de ce corps éviscéré sur cette table d'autopsie. Aujourd'hui, là, pour l'instant, c'est un homme. Mais le principal sujet de recherche et de travail d'Alexia Delbreil, le docteur, c'est sur deux corps de femmes qui ont été tuées par leur conjoint. Homicide conjugal. Comment une histoire d'amour se finit sur une table de dissection. Et là, pendant que je parle, on extrait le cœur.
Là, on s'attaque à la tête pour visualiser la boîte crânienne et sortir le cerveau.
Ah oui, c'est vraiment un grand démontage complet.
Oui. Il y a une procédure systématique qui est à peu près celle qu'on fait aujourd'hui.
Ah là, c'est impressionnant, là, comme le crâne ressort complètement à nu. On racle le crâne.
Ici, j'ai soulevé les muscles temporaux qui sont sur le côté du crâne. On voit un hématome à la face interne du muscle, qu'on ne voyait pas en fait, hein, et qui est en lien donc, avec le tir par arme à feu sur le côté gauche du visage, et on voit apparaître la fracture qui se poursuit quasiment jusqu'au sommet du crâne.
Oula.
On monte la scie pour ouvrir la boîte crânienne.
Est-ce que c'est impressionnant la première fois qu'on le fait, ça?
C'est plus impressionnant de le voir que de le faire, en fait.
Bon, je ne vais pas trop regarder, alors.
J'ai jeté mon arme dans les eaux de la Meuse. Elle ne devait servir pour personne d'autre que toi. J'ai jeté mon arme là où les eaux se séparent. Tu ne devais servir à personne d'autre que moi. J'aurais vendu mon âme pour un coup de whisky. J'avais déjà livré mon cœur dans ton abattoir. Non, pas de douleur, mais tant de souffrance. Toujours pas de miracle, mais tant de patience. Thank you. Pourquoi mon juge m'oblige-vous à répéter cette histoire cent fois réentendue? Pourquoi mon juge m'oblige-vous à avacher ma tête? N'est-elle pas déjà tranchée? Trop tranchée!
Cerveau. Une fois qu'on a ouvert la boîte crânienne, donc on regarde l'intérieur et ensuite on regarde l'aspect du cerveau. Ici on a un œdème cérébral, cet aspect très transparent là qu'on a par-dessus. Quand on a un décès immédiat, ça n'a pas le temps de se constituer.
Ah oui, donc il y a une agonie et tout ça.
Oui. Ensuite on coupe toutes les paires crâniennes et la moelle épinière pour détacher le cerveau.
C'est très impressionnant quand même.
Le poids du cerveau, 1,330 kg. Pour terminer l'extraction des organes, nous passerons sur la table pour la dissection des organes qu'on a retirés. Je découpe le cerveau.
On tranche quoi.
En tranches pour aller chercher des anomalies.
On met des petites tranches de cerveau dans des fioles. Et tous les petits restes sont consciencieusement mis dans cette bassine.
Nous, on prend que des petits fragments. Les organes sont remis avec le corps et enterrés avec le corps. Julie commence à restaurer le corps pendant que je dissèque les organes. Elle est en train de refaire la boîte crânienne et de suturer en fait la blessure par arme à feu pour rendre le visage présentable.
Ah oui, c'est vrai, vous avez sorti le fil et l'aiguille.
C'est ça, le plâtre, la colle.
La colle aussi ?
Ouais. Et puis après on suture donc le cuir chevelu. On va faire au mieux, on va suturer, on va après mettre des pansements pour que ça soit propre et que la famille puisse revoir ce monsieur.
Ça y est, là, vous avez fini ?
Oui, on a fini. On va faire les scellés. Ils vont être répartis dans les laboratoires destinataires.
Et là, pendant ce temps-là, le corps qui était complètement ouvert, il est en train d'être consciencieusement recousu, refermé avec ses organes à l'intérieur. Et il reprend petit à petit une forme humaine. Et alors bon, cette fois-ci c'est fini pour lui, vous allez faire un rapport maintenant?
Oui, d'abord je fais une conclusion provisoire au procureur de la République et aux enquêteurs en charge de cette affaire. Et ensuite ils auront des décisions, eux, judiciaires, à prendre sur la poursuite de l'enquête ou pas.
Ou pas, ou classer sans suite.
Ou classer sans suite.
Et votre prochaine autopsie c'est aujourd'hui ou c'est un autre jour?
Non, cet après-midi c'est pas moi.
Cette fois-ci vous occupez des vivants?
Oui.
Alain Latour comparaît pour avoir fait feu sur son ex-compagne Isabelle Parnex en août 2012.
Il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon.
La victime a été retrouvée lardée de 19 coups de couteau.
Et la piste du crime passionnel est aujourd'hui confirmée.
J'ai tué par amour, parce que je l'aimais trop.
Ces homicides conjugaux, qu'est-ce que ça a de révélateur dans nos sociétés? Qu'est-ce que ça nous raconte de nous, quoi, en fait?
Là, on est sur une violence de l'intime. Quelque chose qui est resté très discret dans nos sociétés pendant des années, parce que ça fait partie du domaine de la sphère privée.
Or, ce que vous pointez du doigt, c'est que la femme qui se fait tuer par son mari, c'est souvent pas une femme battue. Et là, c'est contre-intuitif au possible.
Voilà, quand on prend uniquement les dépôts de plaintes, cette année, je crois qu'on est à 35% des homicides sur le plan national pour lesquels il y avait eu un dépôt de plainte antérieur pour de la violence conjugale. Donc en fait, tous les autres homicides, ce sont ceux qui sont commis de manière très impulsive dans une situation où il y a eu un facteur déclenchant qui vient précipiter le passage à l'acte à un moment donné. C'est pour ça que ce sont des crimes qui sont pour la plupart non prémédités. Dans mon étude, on en avait 14% de prémédités, donc d'assassinat, ce qui est très très faible en fait. Les autres crimes sont commis à la suite d'une dispute, d'une querelle, et très souvent commis dans une situation où la femme a un désir d'indépendance qui fait qu'elle va s'éloigner un petit peu de son compagnon. Par exemple, elle va vouloir aller travailler ou mener une vie à l'extérieur, avoir une vie sociale, alors qu'auparavant, elle était sans arrêt à la maison. En tout cas, elle était plus ou moins sous le contrôle du compagnon. Il pouvait voir qu'est-ce qui se passait dans sa vie à partir du moment où elle s'extrait un peu de ce milieu familial pour aller à l'extérieur. Et également, les situations de séparation conjugale. Tout ça va être un moment propice à un passage à l'acte. On sait qu'à partir du moment où la séparation est énoncée, c'est dans les 3 à 6 mois qui la suivent où on est sur une période très critique à risque d'homicide.
C'est la dépossession de l'être aimé.
C'est la dépossession et c'est vraiment une caractéristique masculine. Ça fait partie des motivations qu'on ne retrouve quasiment pas chez les femmes qui passent à l'acte. On est à plus de 60% des homicides commis par les hommes dans cette idée de dépossession. Et pour que ça soit une caractéristique purement masculine, c'est probablement que derrière...
On a appris aux hommes que les femmes leur appartenaient.
Alors ça, je sais pas. En tout cas, il y a un mode de pensée qui fait que certains hommes s'autorisent ça et la dépossession entraîne de tels sentiments qu'ils sont capables de passer à l'acte. Donc leur vie bascule à un moment de leur histoire conjugale, alors qu'ils ne sont pas délinquants ni criminels auparavant.
Pour éteindre le feu au cul de Marilou, un soir, n'en pouvant plus de jalousie, j'ai couru au couloir de l'hôtel décroché de son clou l'extincteur d'incendie. Brandissant le cylindre d'acier, je frappe, paf, et Marilou se met à geindre. De son crâne fendu s'échappe un sang vermeil, identique au rouge sanglant de l'appareil. Elle a sur le lino un dernier soubresaut, une ultime secousse. J'appuie sur la manette, le corps de Marilou disparaît.
Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas une fatalité qui tient aux huis clos du couple et que de toute façon, il n'y a pas d'intervention extérieure qui sera possible jusqu'à ce que vous arriviez après pour disséquer le corps et trouver les causes du décès. Il y a des alternatives possibles et le Canada en particulier a réussi à faire baisser de moitié le chiffre d'homicides dans le couple, de meurtres entre ex-amants. C'est une vraie question de société, quoi. C'est pas juste à reléguer aux questions de faits divers.
Oui, c'est un vrai phénomène de société et on y travaillera aussi avec une modification des représentations qu'on peut avoir du rôle de l'homme et du rôle de la femme, que la séparation est quelque chose de possible et que chacun est maître de son corps et de sa pensée. Qu'on soit en couple ou pas, l'autre ne nous appartient pas. Et ça, c'est quelque chose qui, encore, n'est pas acquis. Comment est-ce qu'on peut faire pour modifier certains schémas de pensée et arriver à cette égalité homme-femme dont on parle beaucoup en ce moment? Moi, j'y apporte cette touche un peu plus noire, on va dire, hein, puisque quand j'en parle, c'est pour parler du crime. Et mon objectif, c'est de faire diminuer ce crime sur les femmes.
Et voilà comment, en disséquant les corps, on arrive à sonder les âmes. Bon, ça va, Guy ? T'as tenu le coup ?
En tout cas, ce qui m'a rassuré, c'est cette conclusion provisoire. Savoir que ce qu'on appelle « crime passionnel », entre guillemets, et qui a longtemps été vu comme une circonstance atténuante, où l'homme était, où le crime par le conjoint était banalisé, ça n'existe pas. Et il y a une mécanique que l'on peut désamorcer.
Et l'on quitte maintenant les bas-fonds de la salle d'autopsie pour remonter à la surface, prendre la température du mouvement social. C'est au lycée Voltaire occupé que tu nous emmènes maintenant, Antoine.
Oui, après les blocages des facs, de Sciences Po, même de l'école normale supérieure où nous étions, c'est au tour des lycées de se mobiliser contre la sélection à l'entrée de l'université. Oui, les lycéens sont les premiers concernés par la mise en place de Parcoursup et les professeurs s'inquiètent de leur avenir, de l'avenir de leurs élèves, surtout quand la réforme du baccalauréat, la fermeture des centres d'information et d'orientation va accentuer le risque de relégation sociale et scolaire dans les quartiers non privilégiés et même dans Paris intramuros.
C'est parti.
En fait, il y a un premier groupe qui est parti sur un trajet.
Et là, c'est des enseignants, des profs de lycée qui ont donné rendez-vous pour aller occuper leur bahut.
C'est ça. En fait, on a essayé de faire tout ce qui était possible pour que le secret soit gardé jusqu'au dernier moment, y compris dans les communications par mail, etc. Parfois, ça peut frôler le ridicule, limite, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche.
Alors vous, vous êtes enseignant, justement ?
Enseignant en mathématiques à la cité scolaire Paul Valéry. C'est Paris 12e, Porte Dorée. Parce qu'il nous a semblé que les raisons de se mobiliser étaient fortes, mais que la mobilisation n'était pas là. Contrairement à l'université où la mobilisation est forte depuis longtemps sur Parcoursup, alors qu'en vérité, ceux qui sont les premiers concernés par Parcoursup, ce sont les lycéens. Donc ça nous paraissait assez aberrant qu'il y ait aussi peu de mobilisation dans le secondaire et de laisser l'université combattre un dispositif qui en vérité concerne directement les lycéens qui sont en train de passer le bac.
Et les premiers résultats des vœux qui ont été faits sur Parcoursup vont tomber la semaine prochaine, c'est ça ? Donc
oui,
il y aura déjà un bilan de cette première année de Parcoursup.
C'est le 22 mai. Bon, il se trouve que ça tombe le jour de la mobilisation de la fonction publique. Donc on pense quand même que pas mal de lycéens vont réagir aux résultats des vœux.
Allez, on va faire la chaise. Réforme Blanquer, dynamitage du lycée, égale concurrence, égale suppression de postes, égale inégalité. Bonjour.
Bonjour.
C'est la salle des profs, là ?
Ouais, là, c'est la salle des profs. Moi, j'ai du sucré.
À chacun a amené des victuailles pour passer la nuit, c'est
bien
ça ?
Bien sûr, ouais,
pour
ouais.
Tenir le coup.
Première vague des occupants. Il y a les locaux qui étaient un peu là et les occupants arrivent.
Qui va venir aujourd'hui alors pour cet AG ? Qui a été convoqué ?
Des personnels des lycées de l'Est parisien. Pas forcément parce que les autres sont exclus du mouvement, mais c'est parce que c'est ceux qu'on connaît. Et puis on s'était en fait contacté un certain nombre de lycées déjà en amont cette année parce qu'on avait les mêmes problèmes de sureffectifs, de classes créées au dernier moment par le rectorat. Et du coup, en fait, on avait déjà un petit réseau avec Bergson, Paul Valéry, Ravel, enfin de tous ceux qui sont dans le même district en fait, d'affectation des élèves. C'est-à-dire qu'il y a Parcoursup, enfin, il y a la loi ORE. Et la réforme Blanquer.
Alors, ORE, c'est orientation et réussite des étudiants.
Voilà, tout à fait. Orientation, on ne sait pas. Réussite, on ne sait pas. Non, c'est. Ouais, c'est les deux. Et les deux sont liés. À la fois la mobilisation contre la sélection à l'université et le fait que nous, particulièrement dans les bahuts, on va dire, qui accueillent les élèves les plus en difficulté. Et scolairement et souvent socialement, on pense que le risque que nos élèves se retrouvent sans rien, sans affectation ou avec une affectation non choisie est quand même très élevé compte tenu de leur dossier et de leur niveau, de leurs notes, puis de leur parcours antérieur et puis de leurs stratégies qui sont moins affinées que dans d'autres lycées, dans d'autres milieux sociaux. Donc on a quand même cette problématique-là par rapport à la loi ORE et la réforme du lycée qui là... entérine la suppression d'un bac national, quoi, comme premier grade universitaire. Donc quand je dis les deux sont liés, c'est ça. C'est-à-dire que le bac était considéré comme premier grade universitaire. Donc tout lycéen qui avait le bac pouvait entrer à l'université. Et à partir du moment où, d'une part, on sélectionne dans les facs, et d'autre part, on instaure davantage de contrôle continu, donc quelque part des bacs un peu plus locaux, on accentue les inégalités face à l'enseignement et notamment face à l'enseignement supérieur. Voilà, en gros, c'est ça les raisons de la mobilisation.
On va chercher peut-être des chaises.
Il y a une deuxième équipe qui est arrivée.
Ouais. Ouais,
bah là je pense qu'on est au complet.
Des tartes qui sortent des sacs, des salades en tout genre, des gâteaux, des saucissons, des tomates et des banderoles.
Donc là il y a des banderoles qu'on a fait, on en avait discuté, donc on va vous mettre et qu'on installera à un moment donné, quand on aura annoncé l'action. On a commencé à discuter d'un communiqué de presse. Il faut le compléter, voilà. Peut-être le voir, puis mettre les noms de qui est là, en fait. Oui. Comme, pas les noms des personnes, voilà. Mais quels établissements sont représentés, quels parents sont représentés, pour faire large, et ça sera la signature de ce communiqué, qu'on enverra largement pour diffuser, etc. Et puis on commencera après à discuter, à faire un peu...
Il y a différentes interventions prévues, etc.
Sur le tard, il y a d'autres personnes qui doivent nous rejoindre. Donc tant que la situation n'est pas éventée, ils n'auront pas trop de difficultés à rentrer. On va s'organiser et on attendra qu'ils viennent, évidemment, pour pouvoir commencer à discuter un petit peu sur les objectifs et sur pourquoi on fait cette action.
Voilà. Et puis alors, l'idée, c'est que nous, on est déterminés. C'est quand même lycée occupé, là. Hein. On va rester un petit peu. On ne va pas partir comme ça parce qu'on veut quand même poser un certain nombre de choses, qu'on va en discuter ce soir. Que ce soir, c'est pas juste une réunion comme ça, qu'on a un petit peu dans l'idée que derrière, il se passera encore d'autres choses avec les points d'appui des différents collègues qui se trouvent ici, avec leurs établissements, etc.
Voilà. Et on se recense un peu pour savoir qui vient d'où.
Alors, bien sûr, Voltaire, on est un certain nombre.
Attends, on va noter peut-être, mais j'ai pas de papier, j'ai pas de crayon.
Alors, tiens. Un crayon.
Donc il y a Voltaire côté enseignant, bien sûr, Ravel, Turgot, Duruy, Paul Valéry, je présume, Turquetil, Collège Fournier, d'autres établissements, lycée Rodin, Évariste Galois, Sarcelles, Paris 1, Tolbiac, étudiant, Paris 1, Tolbiac, personne, bien sûr, personne. Ursa, ça c'est pas en élève. Hélène Boucher, voilà. Cheminote. Donc là on est dans l'interprofessionnel. Doudou. En grève. Alors après il y a différents syndicats ici, en Tousness, il y en a d'autres. Les camarades de Force ouvrière sont là.
Moi, je suis la CGT.
CGT, Sud Éducation, voilà. Donc, un panel très large.
Il y a le camarade qui est là.
Renaud Billancourt, CGT.
Voilà, un ancien.
Un ancien.
On est de la lutte en 68.
Eh bien, bravo. Eh bien, on est super contents de t'avoir. Voilà, c'est formidable. C'est génial.
Voilà. Alors,
on commence vraiment à 20h, mais à 19h, donc on va récupérer des gens à 19h30 ou 40h finalement.
Entre 30 et 40.
Ah non, il n'y a pas de entre, il hein. Faut que ce soit hyper précis. On veut marquer le coup, pas seulement se réunir pour se réunir, d'autant plus que nous, dans le 11e, nos élèves, c'est eux qui vont payer la grosse note en réalité, c'est les élèves les moins favorisés. Dès maintenant, ils commencent déjà, paraît-il, à s'auto-censurer dans leurs vœux. Ils ont déjà compris qu'il y avait un certain nombre de gens qui allaient leur passer devant. Il semblerait qu'ils commencent à s'auto-censurer avant même que le système se mette en place. C'est aussi parce que Paris est divisé en districts. Après tout, il suffit de faire 3 stations de métro hein, pour aller d'un bahut à l'autre. Mais surtout, on ne touche pas à ces précieux districts. Il y a un district où il y a le 16e, 7e, etc. Et puis, notre district où il y a essentiellement le 20e, le 11e, le 19e. Voilà. Et les bahuts où il y a le maximum de difficultés. Ces dernières années, notre établissement à Voltaire, il est bourré. On a vu en 3 ou 4 ans arriver 500 élèves. Les classes sont à 35. Toutes les classes du lycée, c'est insupportable. On ne peut plus avancer dans ce bahut. Il semblerait qu'il y ait un paquet d'élèves à qui on a dit « Tu veux passer en seconde, mon gars ?» Ben, demande donc Voltaire. Comme ça, on te fait passer en seconde. Ça, c'est des rumeurs qui nous sont revenues et des élèves qui nous l'ont dit. Je suis passé en seconde générale parce qu'on m'a dit « T'as qu'à aller à Voltaire. » Et il semblerait que le terme d'établissement de relégation, évidemment pas du tout officiel, soit un peu le terme utilisé pour des établissements comme le nôtre. Alors, nous, c'est nos élèves. Pour nous, c'est un tout. On sent nos élèves méprisés, on se sent méprisés. Avec la réforme qui s'annonce, ça ne va pas s'arranger pour eux, pour nous non plus d'ailleurs. Mais il y a là quelque chose qui devient insupportable dans le mépris en plus. Par exemple, quand on est désigné comme notre établissement, un des établissements les pires, ça c'est sûr qu'au niveau des vœux, on ne va pas faire venir des élèves extrêmement performants. Donc c'est les autres qui viennent. Alors évidemment, les résultats du bac sont ce qu'ils sont, n'empêche que nous, on fait un super boulot. Et puis je vais même dire un autre truc, parce que moi je suis en fin de carrière, hein, j'ai bien fini mon boulot, mais quand je vois l'état des classes de seconde qui sont arrivées, des élèves en très grande difficulté, alors d'accord, Ils vont peut-être pas tous avoir leur bac, ça va peut-être pas être facile. Mais ici, les collègues anciens ou jeunes, on n'a rien lâché. Quand je vois là au conseil de classe comment nos mômes, certains qui ont dit de leur propre aveu, moi dans ma vie j'ai jamais rien lu, eh ben ils ont lu des bouquins. Moi qui suis prof de français, je l'ai vu. Des mômes, ils m'ont dit, c'est la première fois que je lis un livre en entier, c'est super. Eh ben maintenant je vais en lire un autre. On a fait du très bon taf, mais ce boulot qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Qu'on est des pauvres types avec des pauvres élèves miséreux, puis que nous on est des gros nuls en bas du classement. Le mépris, y compris du rectorat, qui chaque fois qu'on vient réclamer des trucs, dit, mais au fait, vous, avec vos mauvais résultats du bac, voilà. Voilà ce qu'on nous répond. C'est ignoble. Alors que bon, nos élèves, nous, on ne les méprise pas. On fait de notre mieux pour leur ouvrir des perspectives. Et on le fait vraiment. Et là-dedans, là, il y a plein de gens d'autres bahuts que je ne connais pas, mais les collègues qui sont ici, c'est des dévoués, c'est des vrais dévoués, c'est pas des rigolos. Et ça, c'est aussi un aspect super important qui fait que ça se passe dans nos bahuts, cette réunion, et pas dans d'autres, à cause de la ségrégation sociale et de la ségrégation scolaire. Voilà.
Qu'est-ce qui vous amène ici, alors, vous, à cette occupation du lycée Voltaire?
Vous êtes du quartier, c'est ça?
Non, pas du tout.
Vous êtes un camarade cégétiste, quoi?
Ouais, je suis un camarade, d'abord, qui commence à avoir de la bouteille, tu vois, d'abord. Et puis on nous demande de venir, il y aura des étudiants, des profs, tout ça. Bon, bah oui, on leur amènera le soutien de la classe ouvrière. Voilà quoi. Tu vois, on est le 16 mai 2018. Il y a 50 ans, on venait de déclencher, il y avait 2 heures, l'occupation à Renault-Billancourt, qui après faisait un peu tache d'huile. Tu vois, bon, ce qu'il faut, c'est avoir une âme de combattant, une réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle manière, etc. Et l'histoire ne se répète pas obligatoirement de la même manière. Parce que contrairement à ce que la droite a toujours véhiculé, qu'en 68, la CGT traîne les pieds, c'est les étudiants, etc. Bon, d'abord, c'est vrai que les étudiants, ils se sont battus. Et un peu avant la classe ouvrière. Mais il n'y a jamais eu d'antagonisme entre la CGT et les étudiants. Nous, à Billancourt, on en avait 400-500 qui venaient tous les jours. On sortait, on discutait avec eux, tout ça, voilà. Il y a 50 ans, pile, j'étais dirigeant de la CGT. Ben, je m'appelle Roger Sylvain, Roger prénom, Sylvain grand nom. Et puis voilà, en 68, je suis dans l'organisation de la CGT chez Renault, qui est la plus grosse tôle de France, et c'est avec un gros syndicat. Je suis dans une position de permanent, avec un bon copain, qui s'appelle Alboer. Et tous les deux, on est permanents, et tous les deux qu'on... Ah, pas tous les deux, on a un bureau, on a une commission exécutive, etc. Mais on assume la gestion de la grève, voilà. Et ça durera 34 nuits.
D'occupation, quoi.
Oui, parce que on n'a pas déclenché la grève générale à Billancourt. Tous les jours, on réunissait le personnel et il y avait vote pour savoir si on reconduisait ou pas la grève. Et les salariés de Billancourt, ils l'ont reconduit pendant 34 nuits. Parce que, en ce qui nous concernait, ce qu'on a appelé le constat de Grenelle, qui apportait beaucoup de choses pour des entreprises où il n'y avait pas de syndicats, tout ça, mais nous, chez nous, à Billancourt, ça ne faisait pas le compte. Donc, le constat de Grenelle, c'est le 27 mai, et nous, on continue la lutte. Et pas que nous, hein, d'autres, dans l'aviation, partout, quoi, dans la métallurgie en général.
Et comment vous voyez ce mouvement aujourd'hui, vous, en 2018? Alors, cette convergence avec les cheminots, les enseignants aujourd'hui, les postiers et les étudiants, effectivement, qui se sont mis quand même dans la bagarre depuis le début.
Oui. Eh bien, comment on sent les choses? On sent les choses comme des, entre guillemets, hein, des vieux, en disant, putain, si on espère qu'ils vont réussir. On apporte notre soutien, ce que peut être le soutien qu'on amène, c'est pas... Voilà, quoi, qui a un soutien moral, qui est...
Le monde ouvrier, à son tour, entre en scène. L'usine de Boulogne-Billancourt est occupée après celle de Flins. Un cortège arrive du quartier latin, les étudiants veulent établir la jonction avec les ouvriers.
Ils doivent être dans téléchargement. Ouais. Il faudra qu'on nettoie plus ou moins quand même l'ordi.
Les traces du communiqué de presse qui est en train d'être écrit sur l'ordinateur là dans la salle de classe.
Voilà, 35, voilà. Voilà
la photo lycée là, occupé, non, réforme Blanquer, ben alors, parcoursup bac lycée, orientation.
Tiens, et merci beaucoup d'être là. Hein.
Je t'en prie.
Je t'en laisse un.
Ouais. Alors, communiqué de presse des personnels et parents d'élèves des lycées parisiens et franciliens engagés dans l'action d'occupation nocturne du lycée Voltaire ce mercredi 16 mai 2018, 19h30.
Donc maintenant, c'est valider le communiqué de presse,
voilà,
de l'Assemblée Générale.
Voilà, et l'envoyer.
Et l'envoyer.
Voilà. Et après, ben, ça devient officiel, l'occupation est officielle.
Issus d'établissements de gestion de flux en sureffectif ou de relégation, nous refusons la disparition du bac national, seul garant de l'égalité de traitement entre nos élèves et ceux des lycées d'élite. Attachés à ce diplôme donnant droit à la poursuite d'études supérieures, nous nous opposons, comme nos collègues universitaires et leurs étudiants, à la mise en place dès le lycée d'une formation enfermant les élèves dans une orientation contrainte par une offre scolaire restreinte et inégale d'un établissement à l'autre, par un parcours réduisant les horizons post-bac possibles ou par une discrimination sociale aggravée, réservant les plus grands choix aux seuls initiés. Excusez-moi. Voilà pourquoi parents et enseignants des lycées et établissements nommés ci-après, nous occupons ensemble ce soir le lycée Voltaire pour alerter nos collègues et les parents de nos élèves, pour alerter les citoyennes et les citoyens attachés au bien commun et à la sauvegarde des services publics. Nous n'ignorons pas que nous ne sommes pas seuls en lutte, fort heureusement. Nous appelons à répondre massivement à l'appel unitaire de l'intersyndicale de la fonction publique à la grève du 22 mai. Nous appelons nos collègues et les collègues des autres établissements parisiens et plus largement les parents et les lycéens à organiser le 22 mai au matin des rassemblements devant leurs établissements.
Je pense qu'on pourrait peut-être mettre un mot un peu plus précis sur les cheminots, sur les luttes des cheminots, des hospitaliers, voilà, là il y a un contexte actuel quand même qui est un peu particulier.
Alors attendez, bon, il y a la compagnie Jolimum qui vient d'arriver là et qui va faire des choses, je crois, tout à l'heure.
Donc pour nous présenter à la compagnie Jolimum, on est ici à l'établissement, au lycée, à la cité scolaire Voltaire. On voulait faire quelques prises de parole dans la suite sur les différentes réformes qui sont en cours. Et puis appeler les gens à se mobiliser le 22 et dans la suite, voilà. Et on est content de vous accueillir aujourd'hui. Et vous avez vu qu'on a deux belles filles.
Dans la salle principale, c'est l'atelier banderole. La peinture qui s'étale, tout le monde qui s'y colle.
14 mètres de long et ça n'étonne personne.
Il faut mettre la pression, on voudrait que ça détonne.
On est prêt à dégainer, drapeau rouge et slogans.
Toujours plus déterminé,
malgré la pluie et le vent, on va en manifestation. 3 mois de mobilisation, il faut que ce soit décisif. On part en manifestation. 3 mois de mobilisation, il faut que ce soit décisif.
Le ministre a décidé d'interdire la manif.
Les syndicats sont dépassés.
Les militants, les nerfs à vif.
Alors c'est place Beauvau que tout va se négocier.
C'est en manège au bord de l'eau qu'ils veulent nous faire tourner.
Ils sont de tous les blocages, la compagnie Jolimôme, avec leurs drapeaux rouges et leurs chansons de lutte comme une brigade d'intervention musicale, parfois un peu approximative. On peut les retrouver aussi sur scène dans leur théâtre de la Belle L'Étoile à Saint-Denis, ou sinon dans la rue mardi prochain le 22 mai, mais aussi dans la manif de la fonction publique, et aussi samedi dans la marée populaire du 26 mai, des manifestations un peu partout en France pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité. Le mois de mai continue.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux, que le bruit court, hashtag comme un bruit. Demain, dimanche 20 mai, cela fera un an jour pour jour que l'agriculteur Jérôme Laronze a été abattu par les gendarmes. Nous vous en avions parlé en début d'année. Pour lui rendre hommage, un rassemblement est organisé demain sur sa ferme à Trivy, en Saône-et-Loire, à partir de 11h30. Toutes les informations sont sur la page Facebook Justice pour Jérôme. Et la semaine prochaine, nous irons, nous, à Rennes, où un collectif de paysans lui a rendu hommage à leur manière en occupant les locaux des services vétérinaires pour dénoncer l'aberration de certaines normes qui écrasent et font disparaître les petits paysans. Juste après les infos, vous retrouvez Daniel Morin et nous, on se retrouve donc samedi prochain à 16h.